Chapitre 2e. C'était une grande salle avec des lambris décorés en grisaille sur un fond brun et or. Au fond, une grande cheminée de style François Ier se dressait lourde sur ses piliers ornés de salamandres et s'enfonçait dans le lambris. Sur le manteau à fond rouge, parsemé de fleurs de lys d'or, se détachait en relief un signe percé d'un trait empenné. À droite, une fenêtre à meneaux garnie de ses quatre battants à vitraux plombés et s'ouvrant sur le parc. Du côté opposé, un grand dressoir tapissé entièrement de velours pourpre à crépines d'or et supportant sur ses rayons des plats de Bernard Palissy, des reliquaires ciselés par Benvenuto Cellini, des vidrocomes de Bohème, des verres de Venise élançant leurs tiges vrillées et niellées, de vieux vases de Chine couleur bleue du ciel après la pluie, des brûle-parfums en bronze du Japon, des hanapes, des majoliques. Le tout, mêlé à de grosses pièces d'orfèvrerie moderne, rutilait sous la lumière d'un lustre flamand suspendu au lambris par une cordelière de soie grenat. Au milieu, la table ornée d'un surtout de faïence grand feu, représentant un cortège de faunes et de nymphes supportant des conques d'où s'échappaient des gerbes de roses mêlées à des branches de magnolia. Ces fleurs s'épanouissaient sous la chaleur du lustre et remplissaient la salle de leur senteur capiteuse. Autour, des sièges à un grand dossier gothique, sculptés comme une rosace de cathédrale, et qui semblaient avoir été enlevés à un vieux moustier des environs. On prit place à table. Henri fut mis à la droite de la châtelaine. Le dîner fut charmant. Monseigneur parla d'un récent voyage fait par lui dans le midi de la France, et qui lui avait procuré de bien douces joies. Il avait trouvé là des hommes pleins d'urbanité et des femmes d'une délicatesse exquise. D'ailleurs, conclut-il en s'adressant à Gaston, « vous en jugerez. »« Ah, c'est vrai, au fait, » dit Gaston, « je n'y songeais plus. »« À quoi donc ?» demanda Henri. « À se marier, » répondit Lady Clarkson, « car il faut vous le dire, nous marions Gaston. Monseigneur a trouvé pour lui une jeune fille qui fera certainement son bonheur. Elle est jeune, de bonne naissance et orpheline. Elle sera tout entière à lui et ne l'obligera pas à s'éloigner de ses amis. »« Ma foi, » dit Henri, « vous me voyez tous surpris. » Je ne soupçonnais pas du tout que Gaston eût le projet de se marier. Il fallait cela pour fixer ses goûts vagabonds. Il voyageait sans cesse. Maintenant, il demeurera. Nous lui faisons acquérir une petite propriété auprès du château. Il sera notre voisin, et il vivra là heureux entre sa femme et vous. Moi ? Mais oui. Ne vous fixerez-vous pas près de votre ami ? Ce n'est pas ici, mon village. Pouah ! À 20 ans, on est du village où l'on aime. Henri se sentit embarrassé par cette phrase un peu vive d'allure. Il feignit d'admirer les écussons de la cheminée et il demanda « À qui donc appartenait cette devise du signe au cœur transpercé ?» Monseigneur, heureux de montrer son érudition, répondit aussitôt « Le signe percé d'une flèche était la devise particulière de la reine Claude qu'il avait prise de la maison de Clèves dont elle descendait. La légende, Candida Candidis, était une allusion à la couleur du signe qui faisait le corps de la devise et à la pureté des mœurs de la reine. » « Voyez, dit Lady Clarkson, combien Monseigneur possède exactement le moindre détail historique de cette demeure. C'est plaisir que de le questionner sur ce sujet. Grâce à lui, vous connaîtrez bientôt toutes les légendes de Mareuil et vous ne pourrez plus le quitter. »« Ce serait fort heureux pour nous, » reprit Monseigneur, « car M. Henri nous serait, j'en suis sûr, d'un grand secours pour mener à bien les travaux de restauration que nous avons entrepris. »« C'est ma foi vrai, » dit la châtelaine. « Monsieur Henri, vous qui êtes peintre, que ne consentez-vous à diriger nos tentatives artistiques? Je fais restaurer ici, dans les galeries, des fresques à peu près disparues. Votre goût si sûr permettrait de mener à bien cette entreprise. Voulez-vous en demeurer chargé? Madame, balbutia Henri, je vous assure qu'on vous abusait sur mon talent. Mon concours, je le crains bien, ne vous serait d'aucune utilité. Allons, allons, dit Gaston, tu es trop modeste. Ta timidité t'engage toujours à te diminuer. « Je sais bien, moi, que tu pourrais, si tu voulais bien, être agréable à Lady Clarkson. »« Enfin, » dit la châtelaine, « vous réfléchirez à ma proposition. »« Peut-être l'avez-vous trouvé un peu prématuré, mais Gaston a dû vous le dire, je n'aime pas les préambules. Si j'ouvre un livre, je saute la préface. Ne vous étonnez donc pas de ma demande, songez-y seulement, et dites-moi demain que vous acceptez. » Le dîner s'acheva gaiement. Henri, complètement étourdi par le voyage, les étonnements qu'il avait eus depuis son arrivée, l'atmosphère capiteuse de la salle, et ce fluide dague de femme le pénétrant, pour la première fois peut-être, cherchait vainement à ressaisir et à coordonner ses impressions. Ce fut pour lui un véritable soulagement. Quand la châtelaine s'étant retirée, Gaston l'entraîna dans le parc en lui disant « Tu as l'air d'un collégien de 15 ans qui voit pour la première fois un corps de ballet. Viens causer avec moi comme de bons amis. » Et tout en suivant une des longues allées de platanes, dont le feuillage se bleuissait des rayons de la lune, Gaston, ayant allumé un cigare, parla ainsi. Pourtant, je demandais à faire mon droit, parce que faire mon droit, c'était aller à Paris, me mêler à ce monde que je ne connaissais pas, mais que je devinais, et connaître la valeur des hommes et le mystère des femmes. J'ai accompli tout cela rapidement, et puis après je me suis ennuyé. La vie d'enfance consistant à faire 3 repas par jour et à dormir 7 nuits pour recommencer le lendemain m'avait semblé assommante. Je me suis aperçu que la vie d'homme était absolument la même chose. Le menu est plus rempli, mais il ne se renouvelle pas plus souvent. Comme tu le sais, je ne suis pas romanesque et je ne sais pas trouver des satisfactions idéales dans la contemplation comme un fakir de l'Inde. J'ai donc cherché quelque chose de très matériel et de pas trop vulgaire. J'ai trouvé Lady Clarkson. Depuis 3 ans, je passe mes vacances chez elle. C'est assez. Les situations les plus originales atteignent la banalité en s'éternisant. J'ai 25 ans, je puis être avocat, député ou autre chose dans ce genre. Pour cela, il faut me marier. Lady Clarkson y a songé pour moi et m'a fait dénicher dans le Midi par Monseigneur une femme qui est, dit-on, absolument charmante. Je n'en suis pas certain, car j'ai vu seulement sa photographie. Son profil est fin, son front est un peu bombé, ses cheveux ont l'air abondants et bruns. Elle porte le deuil, car elle est orpheline comme moi. Elle a été élevée par une vieille tante, toujours comme moi. Elle est riche, bien entendu, car c'est la seule chose capable de rendre raisonnable l'action de se marier. La cérémonie se fera prochainement. Je partirai peu de jours avant. On a toujours le temps de se voir quand on doit ensuite passer sa vie entière à se regarder. Tu partiras avec moi, car tu es le seul ami sérieux que je possède. Et maintenant, causons un peu de toi. Que comptes-tu faire ?
« Oh, moi ? » répondit Henri, un peu étourdi par ce flux de confidences.
« Je ne sais pas. Je ne suis que 2-4 ans plus jeune que toi. Mais il y a entre nous tout ce qui différencie un enfant d'un homme. Tu as tout ce qui me manque, c'est-à-dire l'esprit pratique, dont je suis absolument dépourvu. J'entrerai dans le monde le plus tard possible, et je m'y ferai un tout petit coin pour qu'on m'y laisse la paix, jusqu'au jour où je serai appelé dans un monde meilleur.
Ah, te voilà parti pour la comète dans ta nacelle d'azur. Tu te désespères toujours devant la vie parce que tu ne sais pas par quelle boule la saisir. Je me charge de t'y faire entrer. Tu sais comment on s'y prend avec les enfants qui ne veulent pas apprendre à nager. On les jette brusquement dans l'eau, la tête la première, et généralement ils ne se noient pas plus que les autres. C'est ainsi qu'il faut en user avec toi.
Qu'as-tu fait pendant ces derniers temps ?
Bah, je suis resté chez moi, au milieu de mes bibelots et de mes livres. Chaque matin, je vais travailler dans l'atelier de mon vieux maître, tu sais Job, le peintre de Chavernay. Il achève en ce moment une madone à la cire pour l'église de Saint-Saturnin. Le tantôt, par les belles journées, nous nous en allons dans la forêt peindre des sous-bois. Le soir, je lis de beaux livres comme La Sibylle d'Octave Feuillet ou Le Voyage au Sahara de Fromentin. Je rêve de soleil, de grands horizons blancs, de chevaux lustrés et de personnages habillés de couleurs vives. Et de femme, n'en rêves-tu pas ?
Non, jamais.
Ne dis pas cela. Tu chasses ce rêve, mais il te vient. Pourquoi ne me le dirais-tu pas ? À qui confierais-tu cela, si ce n'est à moi ?
Eh bien oui, parfois, le soir, en regardant le feu, j'appelle une de ces douces silhouettes de femmes, telles que Jacquet sait les peindre. Elle s'assoit en face de moi, dans une vieille bergère de soie brochée qui tend ses bras vers l'âtre. J'apporte un coussin à ses pieds. Je m'y agenouille, et je reste appuyé sur elle, mes yeux dans ses yeux, jusqu'au moment où je ne sais quelle sensation de vertige me fait croire que nous sommes emportés tous les deux, enlacés à travers l'espace, nous roulant dans la mollesse du bleu.
Et puis après ?
Après, c'est tout.
Oui, je comprends, à certains moments tu te réveilles, pleurant sur un fauteuil vide, c'est enfantin. Le cœur, pas plus que l'estomac, ne se nourrit de chimères. On ne vit pas d'imagination, on en meurt. Et tu n'es pas assez sot, je suppose, pour prendre ce parti-là. Imagine-toi un instant, et cela doit être facile, un cerveau comme le tien, que Lady Clarkson soit assise dans ton fauteuil au coin du feu à la place de l'ombre évoquée d'un tableau de Jacquet. Que ferais-tu? Ce que je t'ai dit tout à l'heure. Cela ne serait pas gai pour elle, sais-tu bien? Henri ne répondit pas. « Allons, dit Gaston, notre entretien te fatigue. Je le vois. Rentrons. C'en est assez pour ce soir. Je vais te conduire à ta chambre. » Ils regagnèrent le château. Un domestique les précéda muni d'un flambeau. Ils montèrent un étage, et Henri fut introduit par son ami dans la chambre qui lui était destinée. « Tu es, dit Gaston, dans un lit où coucha jadis Diane de Poitiers. N'en rêve pas trop. Cela n'est pas bon quand on est fatigué du voyage. Bonsoir. Bonsoir. »